Le Capital. Livre premier, première section, chapitre 1, grand 2. Double caractère du travail présenté par la marchandise. Au premier abord, la marchandise nous est apparue comme quelque chose à double face, valeur d'usage et valeur d'échange. Ensuite, nous avons vu que tous les caractères qui distinguent le travail productif de valeur d'usage disparaissent dès qu'ils s'expriment dans la valeur proprement dite. J'ai, le premier, mis en relief ce double caractère du travail représenté dans la marchandise. Note de bas de page. Karl Marx, Zur Kritik, Locke cite, page 12-13, et Passim. Fin de la note de bas de page. Donc, j'ai le premier mis en relief ce double caractère du travail représenté dans la marchandise. Comme l'économie politique pivote autour de ce point, il nous faut ici entrer dans de plus amples détails. Prenons deux marchandises, un habit par exemple, et 10 mètres de toile. Admettons que la première ait 2 fois la valeur de la seconde, de sorte que, si 10 mètres de toile égale x, l'habit égale 2x. L'habit est une valeur d'usage qui satisfait un besoin particulier. Il provient d'un genre particulier d'activité productive, déterminé par son but, par son mode d'opération, son objet, ses moyens, et son résultat. Le travail qui se manifeste dans l'utilité ou la valeur d'usage de son produit, nous le nommons tout simplement travail utile. À ce point de vue, il est toujours considéré par rapport à son rendement. De même que l'habit et la toile sont 2 choses utiles différentes, de même, le travail du tailleur qui fait l'habit se distingue de celui du tisserand qui fait de la toile. Si ces objets n'étaient pas des valeurs d'usage de qualité diverse, et par conséquent des produits de travaux utiles de diverses qualités, ils ne pourraient se faire vis-à-vis comme marchandises. L'habit ne s'échange pas contre l'habit, une valeur d'usage contre la même valeur d'usage. À l'ensemble des valeurs d'usage de toutes sortes, correspond un ensemble de travaux utiles également variés, distincts de genre, d'espèce, de famille. Une division sociale du travail. Sans elle, pas de production de marchandises. Bien que la production des marchandises ne soit point réciproquement indispensable à la division sociale du travail. Dans la vieille communauté indienne, le travail est socialement divisé sans que les produits deviennent pour cela marchandises. Ou, pour prendre un exemple plus familier, dans chaque fabrique, le travail est soumis à une division systématique. Mais cette division ne provient pas de ce que les travailleurs échangent réciproquement leurs produits individuels. Il n'y a que les produits de travaux privés et indépendants les uns des autres qui se présentent comme marchandises réciproquement échangeables. C'est donc entendu. La valeur d'usage de chaque marchandise recèle un travail utile spécial ou une activité productive qui répond à un but particulier. Des valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme marchandises que si elles contiennent des travaux utiles de qualité différente. Dans une société dont les produits prennent en général la forme marchandise, c'est-à-dire dans une société où tout producteur doit être marchand, la différence entre les genres divers des travaux utiles qui s'exécutent indépendamment les uns des autres pour le compte privé de producteurs libres se développe en un système fortement ramifié, en une division sociale du travail. Il est d'ailleurs fort indifférent à l'habit, qu'il soit porté par le tailleur ou par ses pratiques. Dans les deux cas, il sert de valeur d'usage. De même, le rapport entre l'habit et le travail qui le produit n'est pas le moins du monde changé parce que sa fabrication constitue une profession particulière et qu'il devient un anneau de la division sociale du travail. Dès que le besoin de se vêtir l'y a forcé, pendant des milliers d'années, l'homme s'est taillé des vêtements sans qu'un seul homme devint pour cela un tailleur. Mais, toile ou habit, n'importe quel élément de la richesse matérielle non fourni par la nature a toujours dû son existence à un travail productif spécial ayant pour but d'approprier des matières naturelles à des besoins humains. En tant qu'il produit des valeurs d'usage, qu'il est utile, le travail, indépendamment de toute forme de société, est la condition indispensable de l'existence de l'homme, une nécessité éternelle, le médiateur de la circulation matérielle entre la nature et l'homme. Les valeurs d'usage, toile, habit, etc., c'est-à-dire les corps des marchandises, sont des combinaisons de deux éléments, matière et travail. Si l'on en soustrait la somme totale des divers travaux utiles qu'il recèle, il reste toujours un résidu matériel, un quelque chose fourni par la nature et qui ne doit rien à l'homme. L'homme ne peut point procéder autrement que la nature elle-même, c'est-à-dire il ne fait que changer la forme des matières. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Tous les phénomènes de l'univers, qu'ils émanent de l'homme ou des lois générales de la nature, ne nous donnent pas l'idée de création réelle, mais seulement d'une modification de la matière. Réunir et séparer. Voilà les seuls éléments que l'esprit humain saisit en analysant l'idée de la reproduction. C'est aussi bien une reproduction de valeur, ouvrez la parenthèse, valeur d'usage, bien que ici, Véry, dans sa polémique contre les physiocrates, ne sache pas lui-même de quelle sorte de valeur il parle, fermez la parenthèse, et de richesse, que la terre, l'air et l'eau se transforment en grains, ou que la main de l'homme convertisse la glutine d'un insecte en soie, ou lorsque des pièces de métal s'organisent par un arrangement de leurs atomes. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Meditazioni sulla economia politica. Imprimé pour la première fois en 1773 dans l'édition des économistes italiens de Castelli, Parte moderna, tome 15, page 22, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, l'homme ne peut point procéder autrement que la nature elle-même, c'est-à-dire, il ne fait que changer la forme des matières. Bien plus, dans cette œuvre de simple transformation, il est encore constamment soutenu par des forces naturelles. Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père et la terre, la mère, comme dit William Pettier. Laissons maintenant la marchandise en tant qu'objet d'utilité et revenons à sa valeur. D'après notre supposition, l'habit vaut deux fois la toile. Ce n'est là cependant qu'une différence quantitative qui ne nous intéresse pas encore. Aussi, observons-nous que, si un habit est égal à 2 fois 10 mètres de toile, 20 mètres de toile sont égaux à un habit. En tant que valeur, l'habit et la toile sont des choses de même substance, des expressions objectives d'un travail identique. Mais la confection des habits et le tissage sont des travaux différents. Il y a cependant des états sociaux, dans lesquelles le même homme est tour à tour tailleur et tisserand, ou, par conséquent, ces deux espèces de travaux sont de simples modifications du travail d'un même individu, au lieu d'être des fonctions fixes d'individus différents, de même que l'habit que notre tailleur fait aujourd'hui et le pantalon qu'il fera demain ne sont que des variations de son travail individuel. On voit encore, au premier coup d'œil, que dans notre société capitaliste, suivant la direction variable de la demande du travail, une portion donnée de travail humain doit s'offrir tantôt sous la forme de confection de vêtements, tantôt sous celle de tissage. Quel que soit le frottement causé par ces mutations de forme du travail, elles s'exécutent quand même. En fin de compte, toute activité productive, abstraction faite de son caractère utile, est une dépense de force humaine. La confection des vêtements et le tissage, malgré leurs différences, sont tous deux une dépense productive du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l'homme, et en ce sens, du travail humain au même titre. La force humaine de travail, dont le mouvement ne fait que changer de forme dans les diverses activités productives, doit assurément être plus ou moins développée pour pouvoir être dépensée sous telle ou telle forme. Mais la valeur des marchandises représente purement et simplement le travail de l'homme, une dépense de force humaine en général. Or, de même que dans la société civile, un général ou un banquier joue un grand rôle, tandis que l'homme pur et simple fait triste figure, de même en est-il du travail humain. Note de bas de page. Comparer Hegel, Philosophie du droit, Berlin, 1840, page 250, feuillet 190. Fin de la note de bas de page. Donc, or, de même que, dans la société civile, un général ou un banquier joue un grand rôle, tandis que l'homme pur et simple fait triste figure, de même en est-il du travail humain. C'est une dépense de la force simple que tout homme ordinaire, sans développement spécial, possède dans l'organisme de son corps. Le travail simple moyen change, il est vrai, de caractère dans différents pays et suivant les époques, mais il est toujours déterminé dans une société donnée. Le travail complexe, ouvrez la parenthèse, skilled labor, travail qualifié, fermez la parenthèse, n'est qu'une puissance du travail simple, ou plutôt n'est que le travail simple multiplié, de sorte qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. L'expérience montre que cette réduction se fait constamment. Lors même qu'une marchandise est le produit du travail le plus complexe, sa valeur la ramène, dans une proportion quelconque, au produit d'un travail simple, dont elle ne représente par conséquent qu'une quantité déterminée. Note de bas de page. Le lecteur doit remarquer qu'il ne s'agit pas ici du salaire ou de la valeur que l'ouvrier reçoit pour une journée de travail, mais de la valeur de la marchandise dans laquelle se réalise cette journée de travail. Aussi bien, la catégorie du salaire n'existe pas encore au point où nous en sommes de notre exposition. Fin de la note de bas de page. Donc, lors même qu'une marchandise est le produit du travail le plus complexe, sa valeur la ramène, dans une proportion quelconque, au produit d'un travail simple, dont il ne représente par conséquent qu'une quantité déterminée. Les proportions diverses, suivant lesquelles différentes espèces de travail sont réduites au travail simple, comme à leur unité de mesure, s'établissent dans la société à l'insu des producteurs et leur paraissent des conventions traditionnelles. Il s'ensuit que, dans l'analyse de la valeur, on doit traiter chaque variété de force de travail comme une force de travail simple. De même donc que dans les valeurs toile et habit, la différence de leurs valeurs d'usage est éliminée, de même disparaît dans le travail que ces valeurs représentent la différence de ces formes utiles, taille de vêtements et tissage. De même que les valeurs d'usage, toile et habit sont des combinaisons d'activités productives spéciales, avec le fil et le drap, tandis que les valeurs de ces choses sont de pure cristallisation d'un travail identique, de même, les travaux fixés dans ces valeurs n'ont plus de rapport productif avec le fil et le drap, mais expriment simplement une dépense de la même force humaine. Le tissage et la taille forment la toile et l'habit, précisément parce qu'ils ont des qualités différentes. Mais ils n'en forment les valeurs que par leur qualité commune de travail humain. L'habit et la toile ne sont pas seulement des valeurs en général, mais des valeurs d'une grandeur déterminée. Et, d'après notre supposition, l'habit vaut deux fois autant que 10 mètres de toile. D'où vient cette différence ? De ce que la toile contient moitié moins de travail que l'habit. De sorte que, pour la production de ce dernier, la force de travail doit être dépensée pendant le double du temps qu'exige la production de la première. Si donc, quant à la valeur d'usage, le travail contenu dans la marchandise ne vaut que qualitativement, par rapport à la grandeur de la valeur, il ne compte que quantitativement. Là, il s'agit de savoir comment le travail se fait et ce qu'il produit. Ici, combien de temps il dure. Comme la grandeur de valeur d'une marchandise ne représente que le quantum de travail contenu en elle, il s'ensuit que toutes les marchandises, dans une certaine proportion, doivent être des valeurs égales. La force productive de tous les travaux utiles qu'exige la confection d'un habit reste-t-elle constante? La quantité de la valeur des habits augmente avec leur nombre. Si un habit représente X journées de travail, deux habits représentent 2X, et ainsi de suite. Mais, admettons que la durée du travail nécessaire à la production d'un habit augmente ou diminue de moitié. Dans le premier cas, un habit a autant de valeur qu'en avait deux auparavant. Dans le second, deux habits n'ont pas plus de valeur que n'en avait précédemment un seul, bien que, dans les deux cas, l'habit rende, après comme avant, les mêmes services, et que le travail utile dont il provient soit toujours de même qualité. Mais le quantum de travail dépensé dans sa production n'est pas resté le même. Une quantité plus considérable de valeur d'usage forme évidemment une plus grande richesse matérielle. Avec deux habits, on peut habiller deux hommes. Avec un habit, on n'en peut habiller qu'un seul. Et ainsi de suite. Cependant, à une masse croissante de la richesse matérielle peut correspondre un décroissement simultané de sa valeur. Ce mouvement contradictoire provient du double caractère du travail. L'efficacité, dans un temps donné, d'un travail utile, dépend de sa force productive. Le travail utile devient donc une source plus ou moins abondante de produits en raison directe de l'accroissement ou de la diminution de sa force productive. Par contre, une variation de cette dernière force n'atteint jamais directement le travail représenté dans la valeur. Comme la force productive appartient au travail concret et utile, elle ne saurait plus toucher le travail dès qu'on fait abstraction de sa forme utile. Quelles que soient les variations de sa force productive, le même travail fonctionnant durant le même temps se fixe toujours dans la même valeur. Mais il fournit dans un temps déterminé plus de valeur d'usage si sa force productive augmente, moins si elle diminue. Tout changement dans la force productive qui augmente la fécondité du travail et par conséquent la masse des valeurs d'usage livrées par lui diminue la valeur de cette masse ainsi augmentée s'il raccourcit le temps total de travail nécessaire à sa production. Et il en est de même inversement. Il résulte de ce qui précède que s'il n'y a pas, à proprement parler, deux sortes de travail dans la marchandise, cependant, le même travail y est opposé à lui-même, suivant qu'on le rapporte à la valeur d'usage de la marchandise comme à son produit, ou à la valeur de cette marchandise comme à sa pure expression objective. Tout travail est, d'un côté, dépense dans le sens physiologique de force humaine, et à ce titre de travail humain égal, il forme la valeur des marchandises. De l'autre côté, tout travail est dépense de la force humaine sous telle ou telle forme productive, déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret et utile, il produit des valeurs d'usage ou utilité. De même que la marchandise doit avant tout être une utilité pour être une valeur, de même, le travail doit être avant tout utile pour être censé dépense de force humaine, travail humain, dans le sens abstrait du mot. Note de bas de page. Pour démontrer que, ouvrez le guillemet, le seul travail est la mesure réelle à l'aide de laquelle la valeur de toutes les marchandises peut toujours s'estimer et se comparer, fermez les guillemets, A. Smith dit, ouvrez les guillemets, des quantités de travail doivent nécessairement, dans tous les temps et dans tous les lieux, être d'une valeur égale pour celui qui travaille. Dans son état habituel de santé, de force et d'activité, et d'après le degré ordinaire d'habileté ou de dextérité qu'il peut avoir, il faut toujours qu'il donne la même portion de son repos, de sa liberté, de son bonheur. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Wealth of Nations, livre 1er, chapitre 5, fermez la parenthèse. D'un côté, Adam Smith confond ici, ouvrez la parenthèse, ce qu'il ne fait pas toujours, fermez la parenthèse, la détermination de la valeur de la marchandise par le quantum de travail dépensé dans sa production, avec la détermination de sa valeur par la valeur du travail, et cherche, par conséquent, à prouver que d'égales quantités de travail ont toujours la même valeur. D'un autre côté, il pressent, il est vrai, que tout travail n'est qu'une dépense de force humaine de travail en tant qu'il se représente dans la valeur de la marchandise. Mais il comprend cette dépense exclusivement comme abnégation, comme sacrifice de repos, de liberté et de bonheur, et non, en même temps, comme affirmation normale de la vie. Il est vrai aussi qu'il a en vue le travailleur salarié moderne. Un des prédécesseurs d'Adam Smith, cité déjà par nous, dit avec beaucoup plus de justesse, ouvrez les guillemets. Un homme s'est occupé pendant une semaine à fournir une chose nécessaire à la vie. Et celui qui lui en donne une autre en échange ne peut pas mieux estimer ce qui en est l'équivalent qu'en calculant ce qui lui a coûté exactement le même temps de travail. Ce n'est en effet que l'échange du travail d'un homme dans une chose durant un certain temps contre le travail d'un autre homme dans une autre chose durant le même temps. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Some thoughts on the interest of money in general, etc. Page 39, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, de même que la marchandise doit avant tout être une utilité pour être une valeur, de même, le travail doit être avant tout utile pour être censé dépense de force humaine, travail humain, dans le sens abstrait du mot. La substance de la valeur et la grandeur de valeur sont maintenant déterminées. Reste à analyser la forme de la valeur.